même si dans certains textes, il atténue la spécificité des visibilités au point de, leur donner, de ne plus leur donner qu'un nom négatif, le nom discursif, par opposition au discursif, il semble quand même que même dans ce cas, qui est celui de l'archéologie du savoir, même dans ce cas, est bien marqué que le non discursif est irréductible au discursif, c'est-à-dire qu'il y a dualisme. Je dirais, s'il y a dualisme, il ne faut pas trop s'en faire. Est-ce qu'il y a dualisme? Oui, moi je dirais, à ce niveau, il y a dualisme. Le savoir est duel. Et c'est faute de le remarquer suffisamment que beaucoup de, parfois même de penseurs proches de Foucault, il me semble, mutilent sa pensée, j'ai essayé de le dire, en ne tenant pas un compte suffisant du statut de la lumière et du visible, pour ne retenir que la théorie des énoncés, qui en fait une espèce de philosophe analytique d'un type nouveau. Eh bien, donc je crois qu'au niveau du savoir, il y a dualisme. Seulement j'insiste, et là je voudrais très rapidement poser la question du dualisme en général. Qu'est-ce que c'est être dualiste? Car à mon avis, il y a au moins trois dualismes. Et il n'y en a qu'un qui mérite le nom définitif de dualisme. Le premier dualisme, c'est le vrai. Le vrai dualisme consiste à dire il y a deux. Il y a deux et l'un est irréductible à l'autre. Ce dualisme, vous le trouvez, si je cherche des auteurs qui sont réellement dualistes, je dirais à ma connaissance, il y en a avant tout deux. On peut dire c'est pas vrai, mais enfin moi je vois que ça comme ça. Pas grave. Il y a Descartes, car chez Descartes, il y a un dualisme authentique entre la pensée et l'étendue, entre la substance pensante et la substance étendue. Une fois dit que la troisième substance ne surmonte en rien le dualisme de la pensée et de l'étendue. Je dirais, oui, Descartes, c'est du dualisme objectif ou substantiel. J'en vois un autre, c'est Kant. Cette fois-ci, c'est un dualisme subjectif. Il y a dualisme entre deux facultés fondamentales qui, comme chez Foucault pour le savoir, sont les deux parties constituantes de la connaissance, la réceptivité et la spontanéité. Le dualisme n'est plus entre substance, mais entre faculté du sujet. Où le dualisme n'est plus entre attribut de substance, il est entre faculté du sujet. Si bien que de Descartes à Kant, il y a toute la transformation de la substance en sujet. Bon, ça c'est le premier dualisme. Je dis, il y a un second dualisme qui est cette fois-ci une étape provisoire vers l'un. Faire deux, le dualisme, c'est une manière, comme une espèce d'étape, par rapport à un but ultime, découvrir l'unité plus profonde. Je dirais, ce dualisme provisoire, j'en vois deux exemples, aussi un pour rester à deux, c'est du dualisme alors. Je pourrais le dire de Spinoza, Chez Spinoza, il y a bien une distinction réelle, un dualisme entre l'attribut pensé et l'attribut étendu. Seulement, ce dualisme est une étape provisoire vers l'unité de la substance qui a tous les attributs. C'est une étape provisoire vers l'un.
C'est un mutualisme, on pourrait dire.
C'est un
mutualisme, ça veut dire, c'est pas un dualisme, mais il y a des infinis attributs.
Oui, ça ne me complique pas les choses. Hein. Dis ça comme ça, c'est bon. Oui, tu as raison, non, parce que en fait, c'est dans la mesure où il y a une substance unique que je sais qu'il y a une infinité d'attributs. Je veux dire, l'infinité des attributs est une conséquence de l'unité de la substance. C'est parce qu'il n'y a qu'une substance que je sais que dès lors, elle ne peut pas se contenter de deux attributs. C'est-à-dire, l'infinité n'intervient pas là. L'infinité, c'est une conséquence de l'unité. Ce qui est important, c'est le dépassement des attributs qu'on connaît vers une substance unique, d'où l'on peut conclure une infinité d'attributs qu'on ne connaît pas. L'autre cas, ce serait Bergson. Bergson est célèbre par ses dualismes. La durée et l'espace, la matière et la mémoire, bien plus tous ces titres, les deux sources, tous ces titres se réclament explicitement du dualisme. Mais chez Bergson, le dualisme, là aussi, n'est qu'une étape transitoire vers un monisme triomphant. À savoir, première étape, la durée et la substance s'opposent, et l'espace s'opposent. Il y a deux sources de la morale et de la religion. Matière et mémoire s'opposent. Deuxième stade, les deux termes opposés sont les degrés extrêmes d'une même instance. À savoir, l'espace n'est que le degré le plus dilaté de la durée, ou l'espace n'est que le degré le plus dilaté de l'élan vital, et la durée n'est que le degré le plus contracté de l'élan vital. Un même élan vital traverse les deux formes duelles, l'une étant son extension ou sa dilatation, l'autre étant sa contraction. Donc, dépassement du dualisme par lequel il fallait passer vers un monisme. Il y a une troisième sorte de dualisme. Parce que finalement, il y a une chose très simple. Parler, c'est toujours faire des duels. Le duel est inscrit dans la parole. Le duel est inscrit dans le langage. Si bien que vous serez toujours dualiste dans les mots. Simplement, la question du dualisme, elle commence au-delà des mots. À savoir, est-ce que ce dualisme est un vrai dualisme, selon vous, c'est-à-dire un dualisme qui vaut pour les choses? Est-ce que c'est un dualisme étape provisoire, ou est-ce que c'est quoi? Je dirais, il y a des cas où le dualisme n'est plus étape provisoire, mais comme état préparatoire. Vous me direz, quelle différence? Étape préparatoire. Et étape préparatoire vers quoi? Si je me demande vers quoi? Étape préparatoire de quoi? Si je me demande étape préparatoire de quoi, je crois que je verrai la différence entre le second dualisme et le troisième dont je parle maintenant. Ce serait un état préparatoire des multiplicités. En d'autres termes, ce serait un état préparatoire du pluralisme. Non plus une étape provisoire vers un monisme, vers l'un, vers une unité, mais un état qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, un état provisoire, un état, non, je ne sais plus quoi.
Préparatoire,
ah oui, un état préparatoire des multiplicités. Et du pluralisme pur. C'est celui-là qui m'intéresse, ce dualisme. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Remarquez que mon troisième dualisme s'oppose au second. Pourquoi? C'est que la notion de multiplicité, hein, j'ai toujours trouvé que c'était une notion fascinante parce qu'elle est au substantif. Tant que vous dites le multiple, vous n'avez rien dit. Tant que vous maniez l'adjectif, vous n'avez rien dit parce que vous avez seulement mis un peu d'animation dans l'un. Car qu'est-ce qui est multiple sinon l'un? En d'autres termes, vous êtes platonicien à la rigueur, c'est déjà très bien. Et si vous êtes platonicien, vous êtes de ceux, et même vous êtes du très grand nombre de ceux qui disent le multiple ne peut s'employer que comme adjectif. Multiple est un attribut. Quel coup de force dans la pensée ce fut lorsque, il fallait être allemand pour ça, lorsque des penseurs ont mis le multiple au substantif et ont constitué la notion de multiplicité. Une multiplicité. Remarquez qu'une multiplicité, c'est quand même bizarre, parce que là, il faudrait être logicien pour commenter le « une », l'article indéfini. Il est évident que l'article indéfini de « une multiplicité » ne peut pas être le même que l'article indéfini de « un homme ». Ce ne serait pas rien faire la logique de « un » dans « une multiplicité ». Bon, c'est l'article indéfini. C'est un article non unifiant. Qu'est-ce que c'est lorsque la multiplicité passe au substantif? Ça veut dire qu'elle ne se rapporte plus à une unité quelconque, ni dont elle dériverait, ni qu'elle préparerait. Ça veut dire le multiple doit être pensé par lui-même et en lui-même. Le multiple, ce serait quoi? Une multiplicité, c'est petit n moins 1. C'est pas petit n plus 1. Car la multiplicité, c'est ce qui retire l'un du multiple. Sinon, la multiplicité ne serait jamais érigée. C'est toujours en soustrayant l'un que j'obtiens la multiplicité. Comment penser une multiplicité? Une multiplicité est-elle quelque chose de pensable? Bien. La seule manière de mener une critique de l'un, c'est au nom de la multiplicité. Tant que j'oppose à l'un le multiple, je n'ai rien fait de gênant pour l'un. Si j'exhibe des raisons pour lesquelles le multiple doit être apporté à la multiplicité ou à des multiplicités, à ce moment-là, je peux dire j'ai détruit l'un. Mais je ne peux pas penser avoir détruit l'un tant que je n'ai pas fait cette opération qui substantive le multiple. La multiplicité, est-ce que ça a un sens ? L'acte par lequel le multiple a été érigé en substantif, c'est-à-dire en multiplicité, est un acte scientifique. Je veux dire, je crois que l'origine de la notion est chez le grand mathématicien physicien Riemann, qu'elle est reprise par le mathématicien Cantor, à la base de la théorie des ensembles, que vous la retrouverez chez Husserl, quoique Husserl ne soit guère un pluraliste, mais il s'en sert de cette notion et qu'elle a une richesse scientifique intense. Je crois que c'est Riemann qui fait cette espèce de cadeau à la philosophie. Une notion de multiplicité. Bon, on ne sait pas encore ce que c'est. Je dis juste que c'est très proche de la pensée de Foucault. Pourquoi ? Si vous comprenez tout ce qu'on vient de dire sur les formes, formes du visible et formes de l'énonçable, ce ne sont pas des unités. Je dis, ce sont des conditions sous lesquelles les énoncés se dispersent, se disséminent. Ce sont des conditions sous lesquelles les visibilités se dispersent, se disséminent. Ce qui revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire, vous savez, tout énoncé est une multiplicité. Je veux dire, vous vous rappelez, en effet, c'est normal. D'une part, un énoncé ne peut être étudié que dans sa famille. C'est-à-dire, on ne peut considérer qu'une multiplicité d'énoncés. On ne peut jamais considérer un seul énoncé. Nécessité toujours de considérer plusieurs énoncés. Et d'autre part, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer un seul énoncé ? C'est parce que si l'on considère un seul énoncé, on s'aperçoit qu'il est à cheval sur plusieurs systèmes. C'est pas seulement qu'il y a nécessairement multiplicité d'énoncés, c'est que l'énoncé lui-même est une multiplicité. Multiplicité de ses variables internes, multiplicité de ses variations immanentes. Et ça, l'archéologie de Savoir le dit formellement, à mon avis. Les énoncés sont des multiplicités, et même chaque énoncé est une multiplicité. Un énoncé, c'est déjà une multiplicité discursive. Une visibilité, c'est une multiplicité non discursive. Bon, en somme, il n'y a que des multiplicités, et des multiplicités de multiplicités. C'est la pensée du pluralisme pur. C'est une pensée très vertigineuse, hein, si vous essayez de la penser. Très intéressant. Elle a sa noblesse philosophique, mais sa noblesse cachée, souterraine. Elle a toujours été battue, contrebattue par une philosophie plus impériale, plus classique. Mais bon, revenons à mon thème. Ben, vous comprenez, dans une conception des multiplicités pures, du point de vue d'une théorie des multiplicités pures, qu'est-ce que sera le dualisme ? Le dualisme, ce sera le moyen le plus simple de répartir en premier lieu les multiplicités dans tous les sens. C'est-à-dire, les dualismes vont être eux-mêmes multiples. Ce sera la meilleure manière, la plus facile. La manière la plus facile de distribuer les multiplicités. Alors je dirais, oui, il y a des multiplicités non discursives, il y a des multiplicités discursives. Voilà un premier aspect. Et puis je dirais, il y a des multiplicités d'énoncés qui se rapportent au langage. Le langage étant lui-même une multiplicité de niveaux supérieurs. Puis il y a des multiplicités de visibilité. Bon, tout ça. Je vais distribuer à partir de dualisme, je vais distribuer mes multiplicités. En d'autres termes, la multiplicité sera une étape préparatoire à quoi ? À une distribution des multiplicités. Et c'est seulement quand je m'apercevrai que les dualismes ont proliféré, que les dualismes, à leur tour, et enfin, se révéleront pour ce qu'ils sont, un type de multiplicité parmi les autres. C'est-à-dire, le dualisme est le premier pas pour une typologie des multiplicités. Or, je crois que Foucault, dans toute son œuvre, a élaboré une typologie des multiplicités. Et si j'osais répondre à une question que l'un d'entre vous m'avait posée gentiment, à savoir quel est mon rapport personnel avec Foucault, je dirais qu'une des choses qui m'attache et m'a le plus attaché à lui, c'est que moi aussi je tournais autour d'une tentative pour faire une telle une typologie des multiplicités sur d'autres bases, et les siennes m'apparaissant extrêmement profondes. Voilà, ça c'est le point. C'est donc, oui, il y a dualisme au niveau du savoir, mais qu'est-ce que ça nous réserve? Ce dualisme, à mon avis, en effet, est un principe méthodologique au service de la théorie des multiplicités. Celui, ce qu'il appelle plus souvent, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, j'ai l'impression. Oui, il emploie parfois le mot multiplicité. Notamment, on le verra au niveau de la théorie du pouvoir. Il parle de, par exemple, il a une formule très, très curieuse, il parle de temps en temps de multiplicité humaine. Une multiplicité humaine. Enfin, on trouve le mot chez lui. Mais il préfère les mots dispersion, dissémination, qui sont constants chez lui. Les énoncés se disséminent. Sa lutte contre, du point de vue terminologique, sa lutte contre le monisme et contre le dualisme se fait à partir des mots dispersion. Surtout dispersion, qu'il préfère à dissémination. Dissémination, ce sera un mot plus proche de Derrida. Mais la dispersion chez Foucault, ça c'est une notion qui lui est très très importante. Et c'est vous dire encore une fois à quel point j'attache de l'importance à l'idée que c'est catastrophique de le prendre pour un penseur de l'enfermement. C'est un penseur de la dispersion. Or, il me semble que la notion de dispersion est très proche, et même identique, n'est qu'un autre nom pour le mot multiplicité, ou inversement, le mot multiplicité a d'autres noms, pour ce qu'il appelle, lui, les espaces de dispersion. Voilà le troisième point que je voulais marquer. Quatrième point, eh bien, si savoir a deux parties immanentes, non pas deux parties extérieures, entre lesquelles il établirait une visée ou un pont, mais deux parties immanentes. Qu'est-ce que c'est savoir? Qu'est-ce que le savoir fait avec ces deux parties constituantes? On l'a vu, savoir, c'est entrelacé, entremêlé. Là, c'est une espèce de schéma assez platonicien, hein, c'est le thème du tissage chez Platon, que vous trouvez dans le Politique. Concevoir la constitution des choses comme un entrelacement, un tissage. Peut-être que Foucault a gardé là une espèce d'inspiration platonicienne qui lui sert. Et sa réponse à lui, alors très originale, c'est savoir, c'est entrelacer le visible et l'énonçable et le visible. Ça, c'est tout l'aspect présupposition réciproque entre les deux formes, et capture mutuelle. La capture mutuelle constitue cette espèce d'entrelacage du visible et de l'énonçable. Et le savoir, il n'y a pas de savoir qui n'entrelace du visible et de l'énonçable. Cet entrelacement constitue ce que depuis le début je vous proposais d'appeler une strate. Et sans doute une strate, c'est une formation historique. Mais alors pourquoi employer ce mot qui est plus compliqué que formation historique? C'est parce que formation historique serait ambigu. Formation historique nous laisse dans l'idée qu'une époque précède ce qui se passe dans l'époque. Alors que pour Foucault, c'est juste l'inverse. Une formation historique découle de tel mode d'entrelacement du visible et de l'énonçable. C'est-à-dire une formation historique découle d'une manière dont la lumière tombe, d'une manière dont il y a du langage et d'une manière dont s'entrelacent les énoncés du langage et les visibilités de la lumière. Vous ne pouvez définir une formation historique que secondairement lorsque vous avez assigné une strate. La strate est en fait d'un entrelacement. D'où l'importance, encore une fois, du principe historique qu'on a vu,
toute formation historique dit tout ce qu'elle peut dire et voit tout ce qu'elle peut voir. Il n'y a rien de plus à voir, rien de plus à dire. On dit toujours tout ce qu'on peut, on voit toujours tout ce qu'on peut voir. Donc l'entrelacement des deux formes constitue ce qu'on appellera les relations de savoir. Non, pas entrelacement des deux formes, je dirais, entrelacement du visible et de l'énonçable. Les deux formes, elles, sont hétérogènes. Donc capture réciproque. Ça renvoie à tout ce qu'on a vu aujourd'hui à propos de Roussel et les autres fois. Par exemple, Roussel, typiquement, nous propose des modes d'entrelacement du visible et de l'énonçable par capture ou double assimilation. Dernier point de conclusion. Dès lors, la conciliation des captures mutuelles ou des insinuations réciproques et pourtant la différence de nature radicale entre les deux formes exige, ne peut se faire que dans une autre dimension. Elle exige un nouvel axe. Un nouvel axe qui sans doute ne sera pas le même, mais peut-être jouerait un rôle analogue à celui du schématisme chez Kant. Quel fructueux trimestre! Surtout que nous savons quel est ce nouvel axe. On le sait, on s'y attend au moins. On ne sait pas pourquoi, mais on s'y attend. Ce nouvel axe réclamé par les relations de savoir et préparé par les relations de savoir, tout comme on a vu que le dualisme préparait quelque chose. Ben, ce nouvel axe est constitué par les rapports de pouvoir. Et on ne comprendra rien à la théorie du pouvoir de Foucault si on ne subordonne pas toute sa théorie à l'affirmation que le pouvoir n'est pas une forme. Les formes sont les formes du savoir. Le pouvoir n'est pas une forme, le pouvoir est l'élément informel par excellence. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien, donc c'est pas la peine de continuer. Il n'y a pas de forme du pouvoir. Et c'est pour ça que les rapports de pouvoir sont aptes à instaurer les relations de savoir qui s'établissent entre les deux formes irréductibles du savoir. Le pouvoir est nécessairement un élément informel. Mais pourquoi est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le rapport de pouvoir, ce sont les rapports de pouvoir qui vont rendre compte des relations de savoir. On ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais on a tout déjà. À ce niveau où nous en sommes, on a tout pour le pressentir, c'est-à-dire pour se dire on ne s'est pas trompé. C'est bien ça, la pensée de Foucault. Je dirais, le pouvoir, c'est le deuxième axe de cette pensée. Je dis, on a tout pour pressentir que ça marche. Pourquoi ? Eh bien, comme trois raisons, mais trois raisons pittoresques. Hein. Trois raisons pittoresques qu'on a rencontrées, toutes les trois. Eh bien, première raison pittoresque, l'étude du savoir présupposait la constitution de corpus. Dès lors, nous butions sur la question, comment peut-on composer un corpus ? Soit un corpus de choses sensibles, soit un corpus de phrases, de mots. Il fallait avoir composé un corpus de mots et de phrases pour dégager les énoncés. Mais comment pouvait-on dégager, comment pouvait-on former un corpus ? De même, comment pouvait-on former un corpus de choses et d'états de choses ? d'où l'on pourrait dégager les visibilités. On a vu que la réponse de Foucault était nécessairement, là il n'y avait pas le choix, puisque si vous m'avez bien suivi, il faut que les règles d'après lesquelles on dégage un corpus, dont on tirera les énoncés, ne présupposent rien des énoncés eux-mêmes. C'est donc pas les énoncés qui vont me guider dans le choix du corpus. C'est la sélection des mots et des phrases dont je vais tirer les énoncés d'une formation historique. C'est quoi? C'est les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir, bien entendu. Les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir. Autour desquels bourdonnent les mots, les phrases. Le « on parle ». Pour la sexualité au XIXe siècle, où est-ce qu'on parle de la sexualité? Autour du confessionnal. Autour de l'école. Autour de la médecine. Autour des organismes administratifs qui s'occupent de biopolitique, de naissance, de mariage. Hein? Et toujours, ça c'est la réponse. C'est la réponse générale. Foucault, il me semble, a toujours la même réponse, parce que ça, il n'y en a pas d'autre. Le choix d'un corpus, au moins il a le mérite, il me semble, de poser la question, mais il y a beaucoup de gens qui se sont réclamés d'un corpus. À ma connaissance, Foucault est le seul à réclamer des critères précis pour la constitution des corpus. Et sa réponse, qui lui convient tout à fait et qui explique tout le développement de son œuvre, tout le deuxième axe, c'est qu'il n'y a que les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir qui peuvent rendre compte des mots, des phrases qu'on retiendra dans la constitution d'un corpus. Ça, c'est la première raison par laquelle on voit bien déjà que les relations de savoir se dégagent, se dépassent vers des rapports de pouvoir. Deuxième raison, les relations de savoir sont du type, comment dire, pour parler savant, du type agonistique. C'est une lutte, une étreinte, ce sont deux lutteurs. Le visible étreint l'énoncé, mais l'énoncé étreint le visible encore pire. Et l'énoncé continue à hurler, ceci n'est pas une pipe, en étreignant la pipe. Bon, et la pipe ne cesse pas de se dérober à l'étreinte de l'énoncé. Enfin, c'est... Eh bien, ces mutuelles captures avec dérobade, avec chacun tire sur la cible de l'autre, mais l'autre déplace sa cible, etc. C'est une lutte, une bataille. C'est une lutte, une bataille, c'est le savoir est pris dans une telle bataille. D'où voulez-vous que cette bataille vienne, sinon des rapports de pouvoir en train de se faire et de se défaire? C'est la deuxième remarque pittoresque. Troisième remarque, vous y voyez par parenthèse, une seconde raison pour laquelle il n'y a pas d'expérience sauvage. La première raison, c'était tout est savoir, il n'y a rien avant le savoir. Donc il n'y a pas d'expérience sauvage. La deuxième raison, c'est que le savoir lui-même présuppose des rapports de pouvoir. Dès lors, comment est-ce qu'il y aurait une expérience sauvage, c'est-à-dire libre des empreintes du pouvoir? Et au second sens de la critique de l'expérience sauvage chez Foucault, il le dit explicitement, il n'y a pas d'expérience sauvage parce que toute expérience est déjà quadrillée et prise dans des rapports de pouvoir. Vous me direz, mais le pouvoir est sauvage en lui-même, ça on verra. En tout cas, ce n'est pas ça que la phénoménologie appelle l'expérience sauvage. Ce qui veut dire une chose très simple, finalement, et c'est ma dernière remarque pittoresque. Pourquoi est-ce que il faut cette autre dimension? Pourquoi est-ce qu'on dépasse le savoir vers le pouvoir? C'est qu'encore une fois, savoir, c'est entremêler, voir et parler. Eh bien, on n'y peut rien. On n'y peut rien, dit Foucault. Mais très souvent, il n'y a pas toujours ces petites remarques comme ça qu'il fait. C'est le pouvoir. Le pouvoir, lui, peut-être qu'il voit rien et qu'il parle pas. Muet et aveugle. Il va pas jusque-là, mais il dira presque muet. Presque muet. En effet, dès que le pouvoir parle, il constitue des savoirs. Mais le pouvoir, est-ce qu'il peut parler par lui-même? C'est compliqué, cette histoire. Il faudrait un peu savoir ce qu'il appelle pouvoir. On n'en est pas là encore. Mais même si le pouvoir ne parle pas, il ne voit pas, s'il est aveugle et muet, il fait voir et il fait parler. Et je crois que cette remarque comme accidentelle de Foucault, elle est très très riche. Parce qu'il a tellement raison, c'est un point où tout d'un coup, vous savez, en philosophie, c'est comme partout, il faut à la fois avoir ces démonstrations abstraites très rigoureuses, et puis tout d'un coup, un petit truc qui est illuminateur. Quand Foucault dit, mais oui, le pouvoir, il fait voir et il fait parler, dans quel cas il tire à la lumière. Il tire à la lumière. Ça veut dire quelque chose de très concret. Il tire à la lumière et puis il fait causer, il fait parler. Les gens, ils croient qu'ils parlent comme ça, mais pas du tout. Ils parlent parce que le pouvoir les fait parler. Je vais essayer. Alors là, essayons de penser vraiment, c'est pas là. C'est des choses toutes simples, toutes simples. Bon, on invite Madame Truc à la télé. Prenez une émission que je trouve tout à fait bien, aujourd'hui madame, c'est formidable, on fait venir de sa province une dame, hein, et on lui demande son avis, ou bien sur un roman, ou bien sur, bon, comme disait Raymond Devos l'autre fois, on organise un colloque sur le sujet « on n'a rien à dire ». Attends, personne n'a rien à dire. Très bien, on va faire un colloque là-dessus. Qui c'est qui fait parler? Mais le pouvoir n'arrête pas de nous faire parler. Là, je veux dire, je dis des choses aussi minables que les sondages. Bon, c'est quelque chose de formidable. Le pouvoir ne cesse pas de me faire parler. J'apprends qu'il y a 46% des Français qui pensent ceci. Je me dis, ah bon, ben, je suis dans quel truc, moi? Alors évidemment, il y a le truc de ceux qui n'ont pas d'opinion, mais ils parlent ceux qui n'ont pas d'opinion. C'est à la lettre le colloque sur ceux pour ceux qui n'ont rien à dire. Bon, le pouvoir, il n'arrête pas de nous faire parler. C'est même pas qu'ils nous mettent des paroles mensongères. Ils nous forcent à parler, oui. Encore une fois, exprime-toi, camarade. Mais exprime-toi, camarade, c'est la formule du pouvoir. Jamais le pouvoir n'a dit tais-toi, camarade. Enfin, je retire ce que je viens de dire. Le pouvoir, il dit tais-toi, camarade, dès que quelqu'un a quelque chose à dire, c'est-à-dire résiste. Là, oui. Là, oui, c'est tais-toi, camarade. Mais sinon, le pouvoir me fait parler dans la mesure où j'ai rien à dire. Il attend que j'ai rien à dire, il est très lâche, le pouvoir. Il sait très bien. Hein. Ah, je sais qu'on m'invitera toujours à la télé quand j'ai rien à dire. Un dimanche où j'aurai quelque chose à dire, on me dira, non, c'est pas possible ce jour-là. Ça se voit sur la tête des gens, vous savez. Alors, très bien. Mais de la même manière, le pouvoir tire à la lumière. Projecteur, c'est pas une métaphore. Mais tirer à la lumière, mais ça c'est une opération du pouvoir. Il a jamais cessé de... Qu'est-ce que c'est que ces deux armes ? Faire parler, tirer à la lumière. Or, ça fascinait Foucault, ça. Pourquoi ? S'il était très sensible à ce caractère du pouvoir. Alors vous voyez pourquoi je peux pressentir, je ne dis pas du tout que j'ai prouvé quoi que ce soit en prenant ces remarques, mais c'est à force d'accumuler ces remarques très très concrètes de Foucault qu'on comprend ce qu'il va vouloir dire par le pouvoir qui finalement va organiser les deux pôles du savoir et les entremêler. Un coup de lumière, un coup de langage. Je parle, je te donne à voir. Et ça le fascinait parce que, encore une fois, j'en ai parlé, mais là, dernière remarque pittoresque, il faut le regrouper parce que c'est une notion qui touche énormément. C'est ça la leçon des hommes infâmes. La leçon des hommes infâmes, c'est ce que je viens de dire. Les hommes infâmes, c'est quoi pour Foucault? Cette notion qui sûrement le touchait, à la fois ça le faisait rire et ça l'émouvait. Hein. Ça l'émouvait, qu'est-ce qu'on dit? Très profondément. Les hommes infâmes, pour lui, c'est quoi? Je vais vous dire, à mon avis, il y a trois manières de concevoir une infamie. Ça vous intéresse tous, être un homme infâme. Ne pas être infâme. C'est un lapsus, hein. Mais vous avez corrigé de vous-même. Ne pas être un homme infâme est notre souci à tous. Pour cela, il faut savoir ce que c'est, peut-être, un homme infâme. Je crois qu'il y a eu trois manières de concevoir l'infamie. Il y a une première manière que j'appellerais classique. La manière classique, c'est dire « est infâme celui qui pousse le mal à ses limites ». C'est l'idée d'un excès dans le mal. Pourquoi est-ce que c'est classique? Parce que ça consiste à faire de l'homme infâme un héros, qui serait simplement le contraire du héros. Le héros va au bout de la prouesse, et par là même il entre dans la légende, mais c'est la même légende qui recueille l'homme infâme qui va jusqu'au bout du mal. La transgression, l'excès, la dépense dans le mal, je crois que le représentant d'une conception classique de l'infamie, c'est Georges Bataille. Qu'est-ce que l'infamie? C'est Gilles de Rais. Quelle différence y a-t-il entre Gilles de Rais et Jeanne d'Arc? Aucune, d'une certaine manière. L'un était le maréchal de l'autre. Il n'y a pas de différence, puisque Gilles de Rais va jusqu'aux limites du mal, c'est l'homme des limites, tout comme Jeanne d'Arc va jusqu'aux limites de l'héroïsme. Je dis, c'est pas bien cette conception. D'une part, elle ne s'intéresse pas à l'évidence même qui est l'innocence radicale de Gilles de Rais, à savoir, qui est une victime du pouvoir. Elle forge l'idée d'un Gilles de Rais coupable parce qu'elle en a besoin. Or ça, moi, je n'accepte pas l'idée que Gilles de Rais soit coupable uniquement pour faire plaisir à Bataille. C'est pas juste. Ça déshonore une grande famille française. Et puis, il n'y a pas de raison de croire à la culpabilité de Gilles de Rais, qui a été victime d'un procès abominable, un procès venu du pouvoir, sous le simple prétexte qu'il faut un homme qui ait été jusqu'au bout du mal. Non, c'est pas bien ça, moi je trouve pas. Le livre de Bataille sur Gilles de Rais, je trouve que vraiment c'est pas bien. Pas bien, c'est. Alors, cherchons une autre conception, si celle-là est pas bien. Si après tout, l'homme qui va jusqu'aux limites du mal, c'est pas très. Non, c'est pas ça. Il y a une seconde conception qui est beaucoup plus proche de Borges. Et Borges, en effet, a écrit un livre un peu étrange, Histoire de l'infamie. Inutile de dire que Foucault, qui connaissait très bien Borges, connaissait très bien ce livre. Et c'est pas facile de dégager du texte de Borges ce qu'il appelle l'infamie. Mais si on recoupe avec les autres textes, ben, je dirais que c'est une conception baroque de l'infamie. Non plus classique, mais une conception baroque. Cette fois, l'infamie, c'est pas quelqu'un du soleil noir, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout du mal. C'est autre chose. C'est quelqu'un qui est si tortueux, dont la vie est si tortueuse, qu'on ne peut en faire le récit, puisqu'il s'agit toujours du récit d'une vie, la vie de Gilles de Rais, on ne peut en faire la légende on ne peut en faire le récit ou la légende que en cumulant des possibilités ou des éventualités contradictoires. Et c'est ça qui fait le plaisir de Borges. Chacun trouve, vous voyez, c'est des hommes de plaisir très différents, et Foucault va en être un troisième. Gilles de Rais, il éprouve un plaisir fantastique à l'idée d'un Gilles de Rais qui transgresse toutes les limites et qui va jusqu'au bout d'une expérience du mal. Et ça lui fait un véritable plaisir. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne participe pas à ce plaisir. Moi, au contraire, j'éprouve mon plaisir à l'innocence de Gilles de Rais. Bon, ça touche, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait le goût de quelqu'un, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de se situer. Et puis, Borges, il a des plaisirs, à mon avis, plus subtils que Bataille. Lui, ce qu'il fascine, c'est des vies tellement tortueuses, pas fantastique, pas, oh non, elles font pas des choses extraordinaires. Parfois, elles font des choses extraordinaires. Mais en tout cas, ce qu'elles font, même si c'est minuscule, c'est tellement tortueux que je ne peux en rendre compte qu'en invoquant des possibilités successives contradictoires. Alors là, quand ça se présente dans une vie, Borges est ravi, fou de joie. Une vie qui présente des ruptures telles que, ah bon, la vie de grand A est tellement tortueuse que, à un niveau, c'est sûr, grand A a été tué par B. C'est sûr. Aussi est également sûr que 3 ans après, c'est A qui a tué B.